très bon réveil si vous nous rejoignez. Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le Royaume-Uni ne sortira pas de l'Union européenne le 29 mars, mais le 12 avril ou peut-être le 22 mai. Bruxelles propose à Londres maintenant de disposer. Vous le comprendrez, les 27 tendent un piège aux Britanniques. Nous appellerons notre correspondante à Bruxelles dans quelques instants.
Et puis nous irons aussi au Brésil, où l'ancien président Michel Temer passe la nuit en prison. Il est accusé de corruption.
Le FLN en Algérie est au pouvoir, aux côtés d'Abdelaziz Bouteflika, mais il dit maintenant soutenir les manifestants, ce qui ne les réjouit pas, vous l'entendrez.
Dans ce journal, nous ferons le point sur la mobilisation des forces de l'ordre prévue ce samedi face aux gilets jaunes. L'heure est à la fermeté.
Et puis Stéphane Robert nous rejoindra dans un gros quart d'heure pour son billet politique. Il est consacré ce matin au Sénat, l'enfant terrible de la République. Mais d'abord, 130 000 entrées ont déjà été réservées et l'exposition ne commence que demain, samedi. Elle va durer 6 mois. Toutankhamon est à Paris, à la Grande Halle de la Villette. Une exposition hors norme avec 150 pièces provenant de la tombe du pharaon, 97 ans après sa découverte, dans un lit en bois recouvert de feuilles d'or. Une paire de gants en lin également sera exposée. Une paire de gants qu'a peut-être porté Toutankhamon. Les objets font le tour du monde pendant 3 ans. Venant de Los Angeles, ils sont donc à Paris, puis rejoindront Londres, Sydney, Tokyo, 10 villes au total, avant d'être exposés dans le futur grand musée égyptien de Gizeh, dont la surface est 2 fois plus grande que celle du Louvre. L'Égypte espère ainsi attirer de nouveau des touristes par dizaines de milliers. Martin Roux a pu visiter ce chantier pharaonique.
Les ouvriers commencent à peine à recouvrir la dalle de béton. Nous sommes sur l'immense esplanade du grand musée égyptien. Cet édifice colossal émerge désormais du sable et les pyramides de Gizeh dominent à seulement 2 km, mais le futur musée rivalise déjà.
Ce musée est construit sur une surface de 500 000 m² et ce projet vaut 1 milliard de dollars.
Mina Magdi est ingénieur. Comme les 5 000 ouvriers du chantier, il croise chaque jour le regard de Ramsès II. Sa statue monumentale de 11 mètres trône dans le hall principal.
Il nous donne une motivation énorme pour continuer à travailler. Si nos ancêtres ont été capables de construire une statue qui résiste à plus de 3200 ans, alors nous devons construire un musée qui vivra lui aussi 3200 ans.
Derrière la porte de l'un des 17 laboratoires, les antiquités venues des autres musées du pays sont restaurées. Ahmed Abderrabou co-dirige les opérations.
En ce moment, nous avons une collection d'objets en bois doré du roi Toutankhamon. C'est la première fois qu'ils sont réunis dans un même lieu, comme par exemple ces 6 chars de guerre.
La pièce est aseptisée, baignée d'une lumière blanche, véritable bloc opératoire pour ces antiquités millénaires. Les conservateurs disposent ici d'équipements de pointe.
C'est la première fois que nous utilisons des microscopes d'une telle précision.
Mohamed Ragab observe un gant porté par Toutankhamon.
De ce côté-ci, ils ont cousu d'une manière totalement différente du reste du gant. Et c'est une découverte, car on voit ainsi que les Égyptiens de l'Antiquité disposaient d'un savoir-faire artisanal extrêmement raffiné.
Le trésor de Toutankhamon a encore des secrets à révéler. Il sera exposé pour la première fois dans son intégralité lors de l'inauguration du musée en 2020.
L'immense trésor du petit pharaon Toutankhamon, c'est un article détaillé à retrouver sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi y réécouter la série d'Emmanuel Laurentin et ses invités dans la fabrique de l'histoire. Elle était consacrée cette semaine au pharaon d'Égypte. Le Brexit n'aura pas lieu vendredi prochain. Après de longues heures de discussions très techniques, les 27 États membres de l'Union européenne ont accordé hier soir à Theresa May un report de ce Brexit. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Vous avez suivi pour nous les tractations à Bruxelles lors du sommet européen. Les Européens ont proposé 2 options à la Première ministre britannique.
Oui, ce qui est assez malin, car refuser ce report, c'était endosser en quelque sorte la responsabilité d'une sortie désordonnée dans 8 jours. Les 27 chefs d'État et de gouvernement ont donc proposé 2 dates à Theresa May. Si elle arrivait à arracher un vote positif aux communes sur l'accord de retrait négocié avec l'UE, et cela en début de semaine prochaine, alors ils lui accorderont un délai dit technique jusqu'au 22 mai, veille des élections européennes, pour le transposer dans sa loi interne. Pour l'aider, ils ont formellement endossé hier soir les concessions qu'elle avait arrachées à Strasbourg. Pas sûr que ça suffise, mais c'est un pari. Si ce 3e vote échoue, alors plutôt que de sortir le 29 mars, il lui propose la date du 12 avril. Pourquoi le 12? Parce qu'au Royaume-Uni, c'est le dernier jour possible pour annoncer légalement l'organisation des élections européennes du mois de mai.
Et c'est là, Angélique, que c'est habile.
Oui, car Londres aura alors un nouveau choix à faire. Si le gouvernement décide de participer à ce scrutin, il pourrait obtenir un autre report plus long, fin 2019 par exemple, mais conditionné à un changement de politique, par exemple, nouvelle élection, référendum, on peut tout imaginer. L'Europe sauvegarde donc cette option. Si les Britanniques, en revanche, ne vont pas aux urnes, alors leur pays sortira automatiquement de l'Union le 12 avril. C'est juridique, font valoir les 27. Un pays ne peut pas rester membre s'il n'organise pas ce scrutin. Un no deal arriverait donc, au sujet duquel ils pourraient dire qu'ils n'y sont pour rien. La balle est donc retournée à Londres cette nuit. Les Européens ont voulu donner à Theresa May jusqu'au bout toutes les chances possibles pour que dans 10 ans, on ne dise pas qu'ils n'ont pas fait le job, résumait hier soir une source très proche des négociations.
Et Emmanuel Macron estimait d'ailleurs hier soir qu'il appartient, je cite, aux Britanniques de lever les ambiguïtés qui sont les leurs. Nous n'en avons pas. Merci beaucoup Angélique Bouin. Je rappelle que vous êtes notre correspondante à Bruxelles. Un ancien président soupçonné d'être le chef d'une organisation criminelle. Cela se passe au Brésil. 3 mois seulement après avoir quitté le pouvoir, l'ancien chef d'État Michel Temer a été arrêté hier à Sao Paulo. Il est accusé de corruption. Une affaire en lien avec de possibles pots de vin pour construire une centrale nucléaire, Anne Vigna.
Michel Temer, l'ancien président brésilien, a passé sa première nuit dans une prison de Rio de Janeiro après son arrestation hier à São Paulo. Depuis qu'il avait perdu son immunité liée à son statut de chef de l'État, l'arrestation de Michel Temer était attendue. En décembre dernier, la Cour suprême avait en effet transféré à la justice les 5 enquêtes dans lesquelles il est accusé par des délateurs. L'ancien président a été arrêté dans le cadre de l'opération Radioactivité, une enquête sur une centrale nucléaire à 50 km de Rio de Janeiro. Michel Temer est aujourd'hui accusé de corruption et de blanchiment d'argent. Le parquet a expliqué en conférence de presse qu'il aurait reçu des pots de vin via une entreprise d'architecture, Argeplan, dont il serait le véritable propriétaire, a expliqué la procureure Fabiana Schneider.
Il est possible de voir la croissance exponentielle des contrats pendant les périodes où Michel Temer a exercé des fonctions publiques. On peut donc faire ce parallèle et vérifier l'influence de Michel Temer dans la sous-traitance de cette société Argeplan. Je fais remarquer aussi qu'il y a eu une tentative d'un dépôt de 20 000 reais en espèces sur le compte d'Argeplan. C'est donc une indication que l'organisation criminelle continuait d'être active.
Le juge Marcelo Bretas, responsable de son arrestation, a déjà mis sous les verrous les 2 derniers gouverneurs de l'État de Rio, ainsi que les plus importants responsables politiques dans la région du MDB, le parti politique de l'ancien chef de l'État.
Plus au nord, au Venezuela, c'est le bras droit de l'opposant Juan Guaido qui a été arrêté hier. Le député Roberto Marrero est accusé de terrorisme par le gouvernement de Nicolas Maduro. Il a été arrêté pour détention d'armes à son domicile. Juan Guaido parle d'une intimidation. Et puis, notons qu'au Nicaragua, le gouvernement et l'opposition ont repris les négociations hier, près d'un an après les premières manifestations réprimées dans la violence dans le pays. Pas de violence, en revanche, en Algérie, où la contestation du pouvoir est pacifique depuis 1 mois aujourd'hui. Un 5e vendredi de mobilisation est d'ailleurs prévu, alors que le régime, autour du président fantôme Abdelaziz Bouteflika, le régime commence tout doucement à vaciller. Le nouveau Premier ministre n'a toujours pas formé de gouvernement et le parti en place, le FLN, Front de Libération Nationale, est officiellement, du moins, rallié à la rue. Un double jeu mal vécu par les Algérois, rencontrés par notre envoyé spécial Waïba Filali.
À Beb Loued, dans l'un des quartiers les plus populaires de la ville, Bilal, 28 ans, est vendeur de mhajib, des galettes à base de tomates et d'oignons, qu'il vend 30 dinars dans un petit restaurant d'à peine 10 mètres carrés. Près de lui, une petite radio le tient informé des dernières nouvelles.
Je ne veux même pas parler du FLN, car ces gens-là n'ont rien à voir avec le parti. Le FLN est trop grand pour eux. Le FLN, pour moi, ce sont les martyrs de la révolution. Ce ne sont pas ces petits singes. Eux, ce sont des opportunistes. Ils ont truqué le parti pour s'accaparer le pays. Et là, ils jouent un jeu stupide.
À la faculté centrale d'Alger cette fois, Selima, 23 ans, met au point les derniers préparatifs pour la manifestation d'aujourd'hui. Parmi les pancartes qu'elle écrit, il y a un FLN dégage.
Ils nous prennent pour des gens bêtes, qui ne peuvent pas analyser la situation, et ça c'est une insulte.
Une déclaration de Mohamed Bouchareb, l'un des cadres du parti, a particulièrement agacé cette étudiante en biologie.
Surtout quand un journaliste lui a demandé: vous répondez quoi au peuple qui demande au FLN de dégager? Il lui a dit: moi j'ai jamais entendu ça. Le peuple il a jamais parlé du FLN. Je sais pas comment ils font pour mentir au peuple comme ça. C'est choquant.
Seul point positif, conclut la jeune femme, cela montre que le régime commence à être déstabilisé par le mouvement.
Le gouvernement syrien condamne les propos selon lui irresponsables de Donald Trump, y voyant une violation flagrante du droit international. Hier, le président américain s'est dit favorable à la reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, un territoire disputé à la frontière entre Israël, la Syrie, la Jordanie et le Liban. Cette annonce américaine va dans le sens de ce que souhaite le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou, à moins de 3 semaines, soulignons-le, des élections en Israël.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Une manifestation de gilets jaunes est interdite à Marseille demain samedi.
Ah oui, dans un périmètre délimité, la préfecture des Bouches-du-Rhône craint des violences. Hier à Beauvau, alors que les militaires de la mission Sentinelle s'inquiètent du rôle qu'ils auront demain, eh bien le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a promis l'impunité zéro face aux casseurs. Une semaine après les dégradations sur les Champs-Élysées, il a appelé le nouveau préfet de police de Paris à ne pas avoir la main qui tremble, Roméo Van Maastricht.
L'accent a été particulièrement mis sur les actions préventives. Désormais, les forces de l'ordre pourront interpeller les membres d'un attroupement non déclaré et les punir d'une contravention de 135 euros. Des unités spéciales de CRS, des unités anti-casseurs vont être déployées. Leur but, se concentrer sur les interpellations des éléments les plus perturbateurs. De même, des moyens de marquage vont être ajoutés aux lanceurs d'eau et bombes lacrymogènes pour repérer les casseurs ayant été touchés par le produit. Pour faire face aux Black Blocs, plus de liberté et d'autonomie devraient être conférées à la police. Les ordres pourraient être donnés directement depuis le terrain et non pas depuis les locaux d'une salle de commandement. Pour Olivier Ourcault, secrétaire national Alliance Province, cette preuve de fermeté est à saluer.
Le message a été clair, un message de soutien qu'on a fortement apprécié. Des mesures qui vont aller dans le bon sens. Maintenant, il faut qu'elles se concrétisent par des actes dès samedi. Mais on va être quand même très attentif et vigilant à ce qui va se passer dès samedi et surtout pour que nos collègues ne soient pas encore abandonnés des fois à leur triste sort.
Pour les syndicats, reste à régler la question de la judiciarisation des fauteurs de troubles. Les peines, notamment celles de prison, doivent être appliquées et respectées.
Le Sénat a signalé au parquet de Paris les déclarations de 3 collaborateurs d'Emmanuel Macron, dont le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Ils sont soupçonnés d'avoir maquillé la vérité lors de leurs auditions sur l'affaire dite Benalla. Le gouvernement dénonce l'instrumentalisation politicienne à laquelle se seraient livrés les sénateurs, majoritairement de droite. D'ailleurs, le Premier ministre hier a boudé la séance de questions au gouvernement du Sénat. Aujourd'hui, c'est le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui boycotte une visite prévue à Lille avec son homologue du Sénat, Gérard Larcher. Il avait remplacé Édouard Philippe à la mairie du Havre. Luc Lemonnier a démissionné hier après une visite du Premier ministre. Cela fait suite à une enquête de nos confrères de France Bleu Normandie et de la cellule investigation de Radio France. Plusieurs femmes accusent Luc Lemonnier d'avoir envoyé des photos de lui à caractère pornographique. Une enquête à retrouver sur franceculture.fr. Les députés ont voté hier l'extension des possibilités de vaccination. Certains vaccins pourront donc être prescrits et pratiqués par des sages-femmes, selon les députés. Des prescriptions pourront également être faites par les pharmaciens dans le cadre toujours de la loi santé. Le Conseil constitutionnel valide les tests osseux sur les jeunes migrants. La question était soulevée par un jeune Guinéen soutenu par des associations. Elles estiment que le test n'est pas assez précis. Et pourtant, elles ne sont pas déçues de la décision des sages, Thomas Larabi.
Une défaite en forme de victoire pour l'avocate d'Adama, maître Isabelle Zribi. Alors oui, le Conseil constitutionnel considère que ce test osseux est conforme à la Constitution, malgré la marge d'erreur. Mais cette décision devrait profondément modifier les pratiques des juges, et en de nombreux points, selon l'avocate. Premier point, aujourd'hui, lorsqu'un migrant refuse de se soumettre à ce test osseux, on en déduit qu'il ment et qu'il est donc majeur. C'est désormais terminé avec cette décision. Deuxième point, ce test osseux doit maintenant être complété par une évaluation sociale ou des entretiens avec les services de la protection de l'enfance. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, si les résultats du test osseux et ceux des entretiens sont différents, alors le doute profite aux mineurs. En d'autres termes, un migrant pourra être considéré comme mineur, même si son test osseux dit le contraire. Une bonne nouvelle pour les avocats de migrants qui remettent en cause très largement ce test, archaïque et très peu précis selon eux. Lors de ce test, les radios des migrants sont comparées à des radios prises dans les années 30 sur des enfants américains de milieux aisés.
Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une attaque de Boko Haram en Afrique de l'Ouest. Avant-hier encore, 4 agriculteurs ont été tués au Nigeria. Le groupe djihadiste a fait 27 000 morts en 10 ans, 1 700 000 déplacés qui ont fui les attaques, les pillages. Des jeunes filles sont enlevées quand les garçons sont enrôlés de force. Claude Guibal s'est rendu pour France Culture sur les rives du lac Tchad pour le grand reportage de la rédaction diffusé ce soir. Elle a notamment rencontré un homme obligé de fuir son village. Il vit aujourd'hui dans le site de déplacés de Méléa et il témoigne.
Boko Haram nous a attaqué une nuit. C'était vers 3h du matin. On était dans notre village natal. Avant, on avait entendu des rumeurs, des gens qui disaient que les autres là, Boko Haram, ils avaient attaqué des villages alentour. Cette nuit-là, on a entendu des cris dans le village d'à côté et le bruit des armes. Avant même qu'on ait le temps de quitter le village, ils sont arrivés chez nous. Ils nous ont attaqués. La plupart des gens de notre village ont réussi à s'enfuir. Et nous avons eu peu de victimes. Mais le village voisin, ça a été un massacre. Ce dont j'ai le plus besoin, c'est de me sentir en sécurité. Si un jour on n'entendait plus parler de Boko Haram, ça pourrait aller. Parce qu'ici, la terre est fertile. On pourrait s'en sortir.
Il y a encore la peur ?
Parfois, la nuit, je n'arrive même pas à dormir. S'il n'y avait pas le poste militaire juste à côté, je ne supporterais pas cette situation. Depuis 4 ans que je suis ici, il n'y a pas une semaine sans qu'on entende des rumeurs sur les attaques. Si vous me demandez mon avis, je ne pense pas que Boko Haram se soit fini.
Vivre sous la menace de Boko Haram, c'est un grand reportage à écouter en longueur à partir de 17h ce soir sur France Culture. Il est réalisé par Claude Guibal grâce à Annie Bro et sera suivi d'un débat animé par Aurélie Kiefer. La journée s'annonce globalement ensoleillée sur l'ensemble de la France ce vendredi avec des températures de début de printemps. Il fait ce matin 9 degrés à Besançon, 11 à Paris, Nantes et Lyon, 14 degrés à Bayonne, 18 déjà à Marseille. Cet après-midi comptait 17 à 20 degrés du nord au sud.
Ah voilà, il a fallu l'attendre, mais on l'a eu la bonne nouvelle. Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.